le message aujourd'hui. La semaine dernière, nous avions vu l'appel à être sauvé. Donc, c'était « Venez à moi, l'appel au salut ». Donc, le fait que Dieu appelle tous les hommes à être sauvés et que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et on a vu un peu le salut, on a vu en plusieurs points, je vais en reparler. Et cette semaine, c'est l'appel à l'héritage. Donc, c'est l'héritage des personnes sauvées. Et le titre du sermon, c'est « L'héritage des saints dans la lumière, l'appel à l'héritage ». Donc, on retrouve ce passage, l'héritage des saints dans la lumière, en Colossiens chapitre 1, versets 12 et 13. On va commencer par lire ces deux versets dans Colossiens chapitre 1, où la Bible dit « Rendez grâce au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Donc on voit ici que nous devons rendre grâce au Père, nous devons avoir de la gratitude, nous devons rendre grâce au Père dans notre vie de chrétien, avoir de la gratitude c'est important, et il nous dit que Dieu nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et donc c'est ça, c'est ce passage que j'utilise pour le sermon, donc le titre du sermon, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc on voit que nous sommes passés du royaume de la puissance des ténèbres, donc il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, c'est-à-dire le monde dans lequel on vit, le monde obscur, le fait que nous étions dans nos péchés, et qu'on sait que le prince de ce monde est le diable, donc nous sommes dans un monde de péché, un monde de mort, et Dieu nous a délivrés de cela, nous a délivrés de notre condamnation en plus, le fait que nous étions condamnés à aller en enfer, et il nous a transportés dans le royaume de Jésus-Christ, donc dans le royaume du Fils de Dieu. Donc c'est vraiment un changement drastique, c'est vraiment les opposés, le monde des ténèbres et le monde de la lumière. Donc on voit que Dieu nous a transporté dans le monde de la lumière. Et c'est pour ça que nous devons aussi rendre gloire à Dieu et rendre grâce à Dieu, parce que Dieu nous a sauvés. Il nous a sauvés de ce monde présent, il nous a délivrés de nos péchés, il nous a, grâce à Jésus-Christ, nous pouvons avoir victoire sur la mort, et donc nous avons cette assurance d'être dans le royaume de Jésus-Christ. C'est un magnifique verset qui introduit bien le sujet. Et donc aujourd'hui nous allons parler de l'héritage des personnes sauvées. Donc l'héritage des personnes qui ont répondu à l'appel du salut. Donc on avait vu l'appel du salut la semaine dernière, et donc les personnes qui ont répondu positivement vont recevoir l'héritage des saints dans la lumière. Ils vont avoir cet héritage céleste que nous allons voir aujourd'hui. Donc ce sont des personnes qui ont répondu positivement à l'appel du salut, ce sont des enfants de Dieu, et Dieu appelle bien sûr les non-sauvés à cela aussi. Dieu appelle les non-sauvés à prendre part à l'héritage des saints dans la lumière, prendre part à l'héritage des personnes sauvées. Mais pour cela, ils doivent être sauvés, afin qu'ils puissent avoir accès à cet héritage. Donc c'est pour ça que je dis que ce sermon s'adresse particulièrement aux personnes déjà sauvées, mais bien sûr, Dieu appelle les personnes non sauvées à être sauvées à travers ce qu'il nous donne dans sa parole. Et la semaine dernière, la notion d'appel prenait vraiment la définition d'une invitation. Dieu nous invite à être sauvés, il nous commande à être sauvés. Et cette semaine, la notion d'appel, elle prend plus une définition de destination, donc du fait que là où nous allons aller, et là où nous sommes déjà. Donc c'est vraiment une destination dans le sens où ce sont les choses que nous recevons le jour de notre salut, donc que nous avons déjà reçues, si nous sommes sauvés, et les choses que nous allons recevoir par la suite. Et on avait pris l'illustration d'un bateau la semaine dernière, et on avait dit que ce bateau était Jésus-Christ, donc le fait que Jésus est la porte, lorsque nous rentrons dans son bateau, nous avons cette assurance que ce bateau ira à destination, nous avons cette assurance qu'en Jésus-Christ, nous allons aller au paradis. Parce que Dieu a déjà décidé que ceux qui croient en Jésus-Christ vont aller au paradis. Et on a bien vu la semaine dernière que Dieu n'a pas décidé qui va être sauvé. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Mais il a décidé comment être sauvé. Et donc, lorsque vous avez répondu à cet appel, lorsque vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes dans ce bateau qui a l'assurance et la certitude d'aller à bon port, entre guillemets, c'est-à-dire d'aller au paradis. Et en rentrant dans ce bateau, vous avez aussi tout l'héritage en Jésus-Christ. Donc tout l'héritage que l'on va voir aujourd'hui, et aussi une part du fait que vous avez cru en Jésus-Christ, donc on va voir l'héritage qui vous attend en tant qu'enfant de Dieu. Et je veux simplement faire un rappel de ce qu'on a vu la semaine dernière, donc l'appel au salut, l'appel à être sauvé. On avait vu en 5 parties. La première, c'était que le salut est pour tous les pécheurs, donc Dieu appelle tous les pécheurs à la repentance. Il veut que les gens soient pardonnés de leurs péchés. Le deuxième point, c'était que tout le monde est appelé au salut, donc Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, et Dieu attire tous les hommes à lui. Le troisième, c'est que l'appel, il est seulement en Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a de salut en aucun autre. C'est le seul nom qui nous est donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. Le quatrième point, c'est que Dieu nous appelle par sa parole. Donc, il faut prêcher des versets aux personnes perdues. Il faut donner la parole de Dieu, car Dieu nous appelle par sa parole. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient par la parole de Dieu. Et Dieu utilise l'Esprit Saint, qui a un ministère dans le cœur des personnes perdues, afin de les convaincre de justice, de péché et de jugement. Et donc ça, c'était le quatrième point. Le cinquième point, c'est que le salut, c'est la promesse de la vie éternelle. Donc lorsque vous avez cru en Jésus-Christ, vous recevez la vie éternelle. C'est une vie qui est éternelle, une vie pour toujours. Donc vous avez cette promesse de vivre éternellement. Donc, ce que je voulais commencer par, pour introduire, avant de commencer la première partie, c'est que je voulais donner un exemple, qui est vraiment un bel exemple, je trouve, de la lumière, et que j'ai entendu d'un pasteur, et qui parlait justement de l'astronomie, il parlait de la théorie de la relativité, il parlait de la vitesse de la lumière, et il a fait cet excellent parallèle entre la lumière, donc qui se déplace à la vitesse de la lumière, et la gloire de Dieu. Parce qu'en fait, si vous êtes la lumière, donc si vous vous déplacez à la vitesse de la lumière et que vous êtes la lumière, vous n'expérimentez aucun temps, vous êtes en dehors du temps. Et bien sûr, la Bible dit que Dieu est lumière, que Dieu a créé la lumière, et donc Dieu a donné un de ses attributs à la lumière, dans le sens où lorsqu'elle se déplace, donc lorsque nous allons à la, lorsque la lumière se déplace à la vitesse de la lumière, et bien elle n'expérimente pas le temps. Or, Dieu n'expérimente pas le temps, Dieu est en dehors du temps, tout comme la vitesse de la lumière. Donc je trouve ça vraiment magnifique, parce que Dieu, on peut voir la gloire de Dieu à travers la création, on peut voir la gloire de Dieu à travers l'astronomie et à travers le monde qui nous entoure. Dieu a donné un de ses attributs à la lumière, et ce qui est intéressant à noter aussi, c'est que la vitesse de la lumière, elle est constante. Et on sait que Dieu est constant aussi, que Dieu ne change pas. La Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et il est aussi dit que Dieu ne change pas. Donc c'est vraiment, vraiment merveilleux de voir que la création nous pointe vers la gloire de Dieu. Et on sait que Jésus est la lumière du monde. Et le titre du sermon qui est l'héritage des saints dans la lumière, donc c'est l'héritage des personnes sauvées. Les saints, ce sont les personnes qui ont été sanctifiées par Jésus-Christ. La Bible dit dans Hébreux chapitre 10, verset 10, « Par laquelle volonté nous sommes sanctifiés, par le moyen de l'offrande du corps de Jésus-Christ, faite une fois pour toutes. » Donc nous sommes rendus saints, nous sommes déclarés saints le jour de notre salut, donc nous sommes un saint. Et donc nous aurons part à cet héritage des saints dans la lumière, c'est-à-dire l'héritage des saints dans la gloire de Dieu. Et on voit vraiment que tout nous pointe vers la gloire de Dieu. Le monde naturel pointe à la gloire de Dieu. Donc je trouvais ça intéressant de noter ça, surtout qu'on parle vraiment de l'héritage. Et il faut savoir bien sûr aussi que nous sommes des enfants de lumière en tant qu'enfants de Dieu. Et ça c'est le premier point qu'on va voir. Le premier point qu'on va voir aujourd'hui, c'est le fait que notre héritage, il est le fait que nous sommes le peuple de Dieu. Donc nous, en tant que personnes sauvées, nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc en parlant de Jésus-Christ, en parlant de recevoir la vie éternelle, à eux il a donné le pouvoir de devenir les fils de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. » Donc la Bible dit que lorsque vous croyez en Jésus-Christ, vous devenez un enfant de Dieu. Et donc, si vous le devenez, c'est que vous ne l'êtes pas avant. Donc, Dieu a créé tous les êtres humains, mais pour devenir son enfant, son fils ou sa fille, il faut croire dans le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est seulement croire, ce n'est pas les œuvres, c'est mettre sa confiance en Jésus-Christ. Et le jour où vous faites cela, vous devenez un enfant de Dieu. C'est la nouvelle naissance, Dieu fait de vous une nouvelle créature, vous rentrez dans la famille de Dieu, et bien sûr, vous y êtes pour l'éternité. Vous êtes en Jésus-Christ, c'est ce qu'on va voir dans le deuxième point, vous appartenez à Dieu, vous êtes un enfant de Dieu. Et tout comme votre père physique est toujours votre père spirituel, Dieu, est toujours votre père. Donc c'est un privilège, et c'est vraiment une bénédiction, c'est que non seulement Dieu nous a créés, mais en plus nous devenons son fils ou sa fille le jour de notre salut. Nous sommes de sa famille. Dans Romains chapitre 9, si vous voulez aller dans Romains chapitre 9, on va lire versets 24 à 26, où la Bible dit, « Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais aussi encore d'entre les païens, selon ce qu'il le dit dans Osée, « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait « Vous n'êtes pas mon peuple », ils seront appelés fils du Dieu vivant. » Donc on est appelé le peuple de Dieu, en tant que personne sauvée, nous sommes appelés fils du Dieu vivant. Donc fils ou fille du Dieu vivant, donc c'est vraiment un privilège, nous sommes le peuple de Dieu. Les chrétiens sont le peuple de Dieu. Et donc nous sommes les enfants du Créateur de l'univers. Il ne faut jamais oublier cela. Dieu est notre Père, comme je l'ai dit, rien ne peut changer cela. Une fois que vous êtes devenu son enfant, vous le restez pour toujours. C'est une certitude. Et Galates chapitre 3, versets 28 et 29 nous parle aussi de cette notion. Il est dit, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc on voit, il n'y a plus juif, plus grec, plus esclave, plus libre, plus homme, plus femme, car vous êtes tous un en Christ Jésus. Vous appartenez à Christ. Lorsque vous êtes un enfant de Dieu, vous faites partie de la grande famille des enfants de Dieu, et donc vous appartenez à Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham, et donc héritier selon la promesse. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes les héritiers de la promesse que Dieu a faite à Abraham, et nous sommes la postérité d'Abraham. Et la Bible dit aussi que nous sommes les rachetés de l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, c'est vraiment un magnifique verset dans Ésaïe chapitre 51, verset 11, et vraiment un très beau chapitre, Ésaïe chapitre 51, qui nous dit « Ainsi les rachetés de l'Éternel, donc les rachetés de l'Éternel, ce sont les personnes qui ont été sanctifiées, ce sont les saints, ce sont les personnes sauvées, retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. » Et avant d'avoir un peu plus en détail ce verset, je vais lire aussi Hébreux chapitre 12, verset 22, qui est dans le Nouveau Testament, qui dit « Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. » Donc pour revenir au verset 11, c'est magnifique parce que la Bible dit qu'on ira à Sion avec chants de triomphe. Donc nous irons à la montagne de Dieu, nous irons à la cité du Dieu vivant avec des chants de triomphe. Donc on peut imaginer vraiment cette scène des enfants de Dieu qui iront vers Dieu en chantant des chants de triomphe. Donc on peut voir que la gloire de Dieu sera tellement merveilleuse que nous chanterons la louange et la gloire de Dieu. Et en plus il est dit une joie éternelle couronnera leur tête. Donc imaginez le fait d'avoir une couronne de joie éternelle. C'est merveilleux d'imaginer une chose pareille, nous serons dans la joie éternelle. Car sur cette terre, il y a beaucoup de douleurs, de difficultés, il y a beaucoup de mauvaises choses. Mais tout ça sera terminé lorsque nous serons au paradis. Une joie éternelle couronnera notre tête. Donc c'est vraiment un merveilleux passage à toujours se rappeler le fait que nous allons aller dans un royaume éternel où il n'y aura que joie éternelle. Et la Bible dit « L'allégresse et la joie s'approcheront ». Et cette notion d'allégresse, c'est intéressant parce que je suis allé voir dans le Larousse qu'est-ce que veut dire allégresse, et il est dit « joie vive qui se manifeste extérieurement ». Donc l'allégresse, c'est une joie vive qui se manifeste extérieurement. C'est-à-dire que nous serons tellement joyeux, tellement heureux dans la présence de Dieu et dans le royaume de Dieu, qu'on ne pourra pas faire autrement que d'exprimer notre joie. Donc on ne pourra pas contenir cette joie sera tellement grande qu'elle ressortira. Donc tout le monde sera dans cette joie, cette allégresse, parce que nous serons dans la gloire de l'Éternel, nous serons dans le royaume de Dieu. C'est vraiment un magnifique verset, Ésaïe chapitre 51, verset 11, et Hébreux chapitre 12, verset 22 aussi, car nous sommes de la cité de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes citoyens de Sion, nous sommes citoyens de la Jérusalem céleste, et nous allons vivre pour toujours dans la joie éternelle, et nous chanterons la louange et la gloire de Dieu. Il n'y aura plus de douleur, plus de gémissement. Pour un deuxième point, donc ça c'était le premier point, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons l'héritage du peuple de Dieu, donc nous sommes appelés enfants de Dieu et nous allons hériter de toutes ces choses. Dans le deuxième point, c'est que nous sommes en Jésus-Christ. Lorsque nous sommes sauvés, nous sommes en Jésus-Christ et il est en nous. Colossiens chapitre 1, verset 27 nous dit « À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de gloire. » Donc, Christ est en vous et c'est votre espérance de gloire. Donc, vous savez que vous allez vivre dans la gloire de Dieu. Et le fait que Christ soit en vous, c'est votre espérance de gloire. Donc, on voit vraiment cette notion du fait que Christ est en nous et que nous allons vivre dans sa gloire. Et 1 Pierre chapitre 5, verset 14 nous dit « Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection, que la paix soit avec vous tous qui êtes en Jésus-Christ. » Donc, vous êtes en Jésus-Christ. Et donc, on voit le fait que Christ est en nous et le fait que l'on est en Christ. Et nous appartenons à Dieu. Donc Jean chapitre 10, versets 28 et 29 nous dit, donc Jésus-Christ qui parle, en parlant des personnes qui croient en lui, « Et je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, aucun homme ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a données est plus grand que tous, et aucun homme n'est capable de les ravir de la main de mon Père. » Donc on voit que nous sommes dans la main de Dieu, nous lui appartenons, et nous sommes dans cette main pour l'éternité. Dieu nous tient, et cela depuis le jour de notre salut. Et donc depuis le jour de notre salut, Nous sommes appelés le peuple de Dieu. Nous appartenons à Jésus-Christ. Nous sommes en lui, il est en nous. Et nous avons cette certitude car la parole de Dieu l'atteste. Et donc c'est un héritage qui est déjà présent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez cru en Jésus-Christ, vous avez déjà une partie de l'héritage car l'Esprit-Saint vient vivre en vous. Christ est en vous, vous appartenez à Christ. Vous êtes un enfant de Dieu. Et voilà, donc vous avez déjà une partie d'héritage, mais vous avez des choses qui sont à venir aussi, car vous ne vivez pas encore dans le royaume de Dieu, donc ça c'est à venir, les choses, tout n'est pas manifesté au moment de votre salut, ce sont des choses à venir, et donc tout n'est pas révélé. Mais nous sommes déjà citoyens de Sion, nous sommes déjà citoyens de la cité du Dieu vivant, donc c'est notre patrie. Le troisième point, c'est l'appel à être ressuscité. Donc lorsque nous appartenons à Christ, nous savons que nous allons ressusciter pour la vie éternelle. Jean chapitre 6, verset 40 nous dit « La volonté de celui qui m'a envoyé est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » Donc ça, c'est un bon verset qui explique vraiment clairement le salut, parce que Dieu nous donne quelle est sa volonté. Sa volonté, donc pour le salut, ce n'est pas que vous fassiez des bonnes œuvres, ce n'est pas que vous soyez baptisé, ce n'est pas que vous meniez une bonne vie. Non, c'est pas ça sa volonté pour le salut. Sa volonté, c'est que quiconque voit le Fils, donc c'est-à-dire le voir par la foi, par les yeux de la foi, et croit en lui, et la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Donc la volonté du Père, c'est que l'on croit en Jésus-Christ pour recevoir le don de la vie éternelle, et Dieu nous ressuscitera au dernier jour. Donc lors du retour de Jésus-Christ, nous serons ressuscités pour la vie éternelle. Donc nous avons cette assurance d'être ressuscités, c'est notre héritage en tant qu'enfant de Dieu d'être ressuscité pour la vie. Et on va aller dans 1 Corinthiens chapitre 15, si vous voulez aller. 1 Corinthiens chapitre 15. Je vais lire quelques versets, parce que c'est vraiment un très bon chapitre qui parle de la résurrection, 1 Corinthiens chapitre 15. Au verset 42, il est dit « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. » Donc on voit que, pour le moment, nous avons un corps corruptible. Nous sommes dans cette chair, nous pouvons mourir. Ce corps n'est pas immortel. Quand nous avons cru en Jésus-Christ, notre esprit est rendu vivant. Il est vivant pour toujours, mais nous avons toujours ce corps de chair. Donc la Bible dit que ce corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Donc lorsque vous allez ressusciter, vous allez avoir un corps de gloire, un corps immortel, qui ne peut plus périr. Et donc c'est ce que Dieu nous dit. Et il dit aussi au verset 49, « Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. » Donc là, aujourd'hui, nous portons l'image du terrestre, nous sommes dans ce corps, et un jour, nous allons porter l'image du céleste. Donc ça, c'est une promesse, le fait que nous allons avoir un corps céleste, le fait que nous aurons un corps incorruptible, un corps immortel. Et la parole nous dit, notamment dans le verset 41 de ce chapitre, que nous aurons des corps de gloire qui diffèrent en gloire. Et je mentionne cela, mais j'en parlerai dans le prochain enseignement sur l'appel, qui sera l'appel à la vie chrétienne, j'en parlerai plus en détail dans cet enseignement, car c'est important de noter le fait que nous aurons un corps qui diffère en gloire l'un de l'autre. Nous n'aurons pas tous le même corps au niveau de la gloire. Et pourquoi ? Parce que ça dépendra de nos œuvres. C'est pour ça que je vais en parler dans le prochain sermon. C'est l'appel à la vie chrétienne, et donc on verra que, et c'est écrit dans la Bible, que les corps de gloire vont différer l'un de l'autre. Et nous serons semblables à Christ, donc tous les enfants de Dieu, toutes les personnes sauvées vont ressusciter et seront semblables à Christ. Dans 1 Jean chapitre 3, versets 1 et 2, il est dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Donc on voit déjà ce qu'on a vu dans le premier point. Donc nous sommes appelés les enfants de Dieu et on voit quel amour le Père nous a témoigné. Quel merveilleux amour le Père nous a témoigné, c'est qu'il a envoyé son Fils bien-aimé pour nous. Son Fils parfait, le Fils de Dieu qui n'a commis aucun péché, qui est parfait, est mort pour des injustes. Lui le juste pour des injustes. Donc il n'y a pas de plus grand amour que ce que le Père a fait pour nous. Il n'y a pas de plus grand amour aussi que ce que le Fils a fait pour nous. Donc Dieu a manifesté son amour envers nous dans le fait qu'il ait envoyé son Fils Jésus-Christ mourir pour nos péchés. Et le salut est gratuit pour nous. Donc on voit vraiment quel amour le Père nous a témoigné, et on ne doit jamais oublier cela. On ne doit jamais oublier que Dieu nous aime à tel point qu'il a envoyé son Fils pour nous. Donc soyons reconnaissants envers cela. Et la Bible dit, donc nous sommes maintenant enfants de Dieu, donc comme on l'a vu, on est le peuple de Dieu, on est enfants de Dieu depuis le jour de notre salut, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, parce que nous n'avons pas encore notre corps de gloire, nous ne sommes pas encore semblables à Jésus-Christ, donc ce sont les choses à venir, l'héritage à venir. Et lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, donc nous serons semblables à Jésus-Christ. Donc ça c'était le troisième point, c'est le fait que nous sommes appelés à ressusciter en tant qu'enfants de Dieu. Le quatrième point, c'est que nous sommes appelés à être participants du royaume. Donc c'est là où nous allons vivre l'éternité dans le royaume de Dieu. Et donc ça rejoint le titre du sermon, l'héritage des saints dans la lumière. Donc l'héritage des saints qui vont vivre dans la gloire de Dieu, dans le royaume de Dieu. Et notamment, comme on l'a vu dans Colossiens chapitre 1, versets 12 et 13. Et on va aller lire 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12, des versets 1 à 4. Donc c'est Paul qui nous raconte l'histoire de quelqu'un qui est allé au paradis et qui nous dit « Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis. » Et qu'il a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Et donc on voit, cette personne qui allait au troisième ciel, cette personne qui allait au paradis, Paul dit qu'il ne sait pas si c'est dans son corps ou si c'est en esprit. Et ce que je veux noter, c'est ce qu'il est dit à la fin, il est dit, et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Donc on voit cette notion d'entendre des paroles ineffables, c'est-à-dire des paroles inexprimables, des paroles qui ne sont pas compréhensibles pour nous humains, et cela montre à quel point le paradis est un endroit glorieux. Cela montre à quel point le paradis est merveilleux, parce que ce n'est même pas descriptible par des mots humains, et on ne peut même pas décrire, la personne ne peut même pas décrire ce qu'elle a entendu. Ineffable, inexprimable, ça veut dire indescriptible, ça veut dire inconcevable. Donc le paradis est si merveilleux qu'on ne peut pas l'exprimer dans des mots humains. Et Dieu nous donne quelques passages sur le paradis, on va aller dans quelques passages, mais la Bible ne parle pas tant que ça du paradis, et Dieu, bien sûr, nous en parle, mais il n'y a pas non plus énormément de versets qui parlent du paradis, mais on sait que le paradis est un lieu qui est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Tout ce dont vous rêvez est rien à côté du paradis, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas imaginer à quel point c'est merveilleux. Et ça, Dieu nous le montre, notamment dans ce verset 4, et bien sûr, on le voit dans d'autres versets. Donc c'est plus grandiose que tout ce qu'on peut rêver. Et on va noter justement quelques descriptions du paradis qui sont données dans la Bible. On va aller dans quelques notions, notamment sur la Nouvelle Jérusalem, dans Apocalypse chapitre 21. Donc la Nouvelle Jérusalem va descendre sur la Nouvelle Terre. Donc la Nouvelle Terre, c'est après le millénium. Il y a le millénium, après il y a la Nouvelle Terre. Et on voit dans Apocalypse chapitre 21 que la Nouvelle Jérusalem descend sur la Nouvelle Terre. On va lire quelques versets pour parler un peu du paradis, parler un peu de la Jérusalem céleste, notre cité céleste, notre patrie. Donc Apocalypse chapitre 21 nous dit, au verset 10 et 11, « Et il me transporta en esprit, » donc c'est Jean qui parle, et qui dit qu'il a été transporté en esprit, « Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la grande ville, la Sainte Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. » Donc on voit Jean qui décrit ce qu'il voit, et on voit vraiment que la Nouvelle Jérusalem, donc notre cité, a la gloire de Dieu, et son éclat a été semblable à celui d'une pierre très précieuse, donc on voit la beauté de ce lieu, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Donc on voit vraiment le fait que notre patrie, notre cité céleste, est vraiment un endroit de pure beauté, un endroit qui est merveilleux. Et Dieu le décrit dans ses versets. Dans les versets 18 et 19 de l'Apocalypse chapitre 21, il est dit aussi « La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce, etc. » Donc après, il liste les pierres précieuses. Donc on voit cette notion de pierres précieuses, on voit que les rues sont en or pur, donc on voit vraiment la beauté de ce lieu. Et versets 22 et 23, il est dit « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. » Donc on voit le fait qu'il y a la gloire de Dieu. Le royaume de Dieu est un lieu glorieux. Dieu est tellement lumineux qu'il éclaire la ville. Et on voit ces notions de pierres précieuses, d'or pur, etc. Au chapitre 22, verset 1, aussi, on va noter deux versets dans le chapitre 22. Le verset 1, il dit « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. » Et donc, on voit dans, notamment dans l'Apocalypse chapitre 22 que Jésus dit qu'il donnera de l'eau de vie gratuitement. Cette eau de vie qui coule sous le trône de Dieu, c'est cette notion de que Dieu donne la vie éternelle, cette notion de salut, et du salut de l'âme, salut de l'esprit. Et il est dit au verset 5, donc en parlant de voir le Père, il est dit « Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. » Et enfin, j'ai lu un peu du verset 4 aussi, il me semble, mais c'est pour montrer le fait que nous allons voir la face du Père, donc nous aurons cette bénédiction de voir la face du Père, et son nom sera sur nos fronts. Donc nous sommes son peuple, et nous allons vivre dans la gloire du Père, dans la gloire du Fils. Donc nous serons participants de ce royaume glorieux, et Dieu est le roi, bien sûr, et nous sommes appelés à régner et à servir avec Dieu. Donc lorsque nous irons dans ce royaume, nous servirons Dieu, et nous sommes appelés à régner avec lui. Donc notamment Apocalypse chapitre 20 verset 6, qui nous parle de la notion du fait de régner avec Dieu. Il est dit « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Donc là c'est le millénium, on voit le fait que en tant qu'enfants de Dieu, nous allons régner avec Christ, et nous allons être sacrificateurs de Dieu et de Christ, et donc cette notion de régner. Et je ne vais pas rentrer trop dans les détails là-dessus. On le verra aussi dans l'appel à la vie chrétienne. Le fait que nous n'allons pas tous régner à la même autorité. Il y aura des... Dieu va distribuer de l'autorité à ses serviteurs en fonction de leurs œuvres. Tout comme nous aurons un corps plus glorieux en fonction de nos œuvres, nous aurons aussi plus d'autorité dans le royaume de Dieu en fonction de nos œuvres. Donc ce sont les récompenses que Dieu va donner à ses serviteurs. Donc on en parlera dans le prochain. Et donc Dieu nous appelle à régner avec lui. Et nous servirons Dieu. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 3, il est dit « Il n'y aura plus d'anathème, donc plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront. » Donc si vous demandez qu'est-ce que vous allez faire au paradis, vous allez servir Dieu. Dieu a des choses à faire pour vous. Et je suis certain que ce que Dieu va vous donner, ce sera quelque chose de merveilleux. Et Dieu, Dieu va donner des choses à faire à ses serviteurs. Nous allons régner avec Christ pendant le millénium. Et comme on l'a vu, nous allons voir la face du Père, et nous allons servir Dieu pour l'éternité. Donc ça, c'était le quatrième point, c'est le fait que lorsque on est une personne sauvée, on a l'appel au fait que nous allons aller dans le royaume de Dieu, que nous allons servir Dieu et régner avec Christ. Le cinquième point, c'est l'héritage céleste. Dans Apocalypse chapitre 21, verset 7, la Bible dit « Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. » Et on voit dans 1 Jean chapitre 5, verset 5, que celui qui vint, c'est celui qui a cru que Jésus est le Fils de Dieu. Donc si vous avez cru en Jésus-Christ, vous avez vaincu le monde, vous êtes vainqueur, et donc vous allez hériter de toutes ces choses. Donc cette notion d'avoir un héritage céleste. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 18, si vous voulez aller dans Éphésiens chapitre 1, verset 18, la Bible dit « Et qu'il illumine les yeux de votre cœur » pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son peuple, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. » Donc on voit la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Donc ce que Dieu nous réserve est merveilleux. Donc on voit cette notion de gloire, on voit cette notion de l'héritage que Dieu prépare, l'héritage céleste, l'héritage des saints dans la lumière, donc le fait que nous allons vivre dans la lumière, le fait que nous allons vivre dans le royaume de Dieu. Et donc notre héritage est au ciel. On ne doit jamais oublier que notre héritage est au ciel. La Bible dit aussi que nous sommes héritiers et co-héritiers dans Romains chapitre 8, verset 17. Il est dit « Or si nous sommes enfants, donc lorsqu'on est sauvé, on est enfant, on l'a déjà vu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Donc nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ, donc nous allons régner avec Jésus-Christ, nous sommes des héritiers de Dieu. Et il est dit aussi, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Parce que si vous souffrez pour Christ, donc lorsque vous êtes sauvés pour toujours, rien ne peut changer ça. Vous avez votre assurance d'aller au paradis, quoi que vous allez faire dans votre vie. Et bien sûr, Dieu s'attend à ce que ses enfants fasse des œuvres. Les œuvres ne sont pas automatiques. Une personne sauvée ne fera peut-être aucune bonne œuvre, il ira au paradis. Mais quel dommage, parce que Dieu a fait de vous une nouvelle créature, et Dieu veut que vous pratiquiez les bonnes œuvres. Dieu va vous récompenser, il va vous bénir si vous faites cela. Et il dit que si vous souffrez avec Christ, donc si vous vivez la vie chrétienne, vous allez souffrir. La Bible dit que tous ceux qui vivent pieusement en Christ Jésus souffriront la persécution. Donc si vous endurez cette souffrance pour Christ, pour la gloire de Dieu, en œuvrant pour le Seigneur, alors vous serez glorifié avec lui, dans le sens où vous aurez un corps plus glorieux, vous aurez plus d'autorité, vous aurez des récompenses dans le ciel. Donc c'est ce que Dieu nous invite à faire. Dieu nous invite à souffrir pour lui, afin d'être glorifié avec lui. Quoi qu'il arrive, en tant que personne sauvée, vous allez vivre dans la gloire de Dieu. Mais si vous œuvrez pour Dieu, vous aurez, comme je l'ai dit, plus de récompenses. Et ça, on le verra dans le prochain sermon. Donc nous sommes aussi appelés à partager la gloire du Seigneur Jésus en tant que personne sauvée. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 14 nous dit « C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc on l'avait vu dans l'appel à être sauvé, que Dieu nous appelle par l'évangile, donc Dieu nous appelle par la parole de Dieu. L'évangile est ce qui nous permet d'être sauvés, le fait que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité des morts. Si nous ajoutons foi à ça, nous sommes sauvés. Et donc, nous sommes appelés à posséder la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire à vivre dans la gloire de Dieu, vivre dans la gloire de Jésus. Et on avait vu dans Colossiens chapitre 1, verset 27, « Christ en vous, l'espérance de gloire. » Donc vous avez cette certitude que vous allez vivre dans la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et Colossiens chapitre 3, verset 4 nous dit « Quand Christ, notre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Ça, c'est vraiment un beau verset aussi qui nous dit que quand Christ, qui est notre vie, parce que Jésus est la vie, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Donc Jésus est la vie, c'est la vie éternelle, en lui est la vie. Donc quand Christ va paraître, et Christ est notre vie. Donc ça, il faut toujours se rappeler que Christ, c'est la vie. Si vous vivez en tant que personne sauvée dans le monde, et bien vous vous coupez du fait de marcher avec Dieu. Donc quel dommage, parce que Christ est la vie, il n'y a pas d'autre vie que Christ. C'est pourquoi Dieu nous appelle à le servir. Bien sûr, comme je l'ai dit, vous avez reçu la vie éternelle, vous avez cette certitude d'aller au paradis, donc vous avez la vie éternelle. Dieu veut que l'on marche avec lui parce qu'il est la vie. Et quand Christ, notre vie, paraîtra, donc quand Christ va revenir, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc nous serons dans la gloire de Dieu, nous allons ressusciter dans notre corps de gloire et nous allons paraître avec Dieu. Et Romains chapitre 8, par faute de temps, je ne vais pas les lire, mais versets 29 et 30, si vous voulez lire chez vous. Romains chapitre 8, versets 29 et 30. Donc on va reprendre les 5 points que l'on a vus, donc pour voir ce qu'on a vu dans ce sermon. C'est le fait que lorsque l'on est sauvé, on a un héritage qui nous attend, l'héritage des saints dans la lumière. Donc le premier point, c'est que nous sommes appelés le peuple de Dieu. Donc lorsque nous avons cru en Jésus-Christ, nous devenons enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de lumière, nous sommes citoyens de la cité du Dieu vivant, citoyens de Sion, citoyens de la Nouvelle Jérusalem. Nous avons cette certitude que l'allégresse et la joie éternelle nous attendent. Plus de douleur, plus de gémissements, plus de souffrance. Et donc c'est toujours très important d'avoir les yeux fixés sur notre patrie céleste. Ici, nous ne sommes que temporaires. Notre vraie patrie, notre vraie cité, elle est dans les cieux. Et donc nous devons toujours penser à cela. Et ça nous apporte de la joie dans cette vie. Mais nous n'imaginons même pas la joie que nous allons expérimenter après. L'allégresse, comme la Bible dit. Le deuxième point, c'est que nous sommes en Jésus-Christ et il est en nous. Le troisième point, c'est que nous sommes appelés à ressusciter. Nous avons cette certitude de ressusciter pour la vie, et nous aurons un corps de gloire. Le quatrième point, c'est que nous sommes appelés à être participants du royaume de Dieu. Donc nous allons vivre dans le royaume de Dieu, nous allons régner avec Dieu, nous allons servir Dieu pour l'éternité. Le cinquième point, donc c'est l'héritage céleste, le fait que nous serons héritiers et co-héritiers, et nous sommes appelés à partager la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et comme on l'a vu, certaines choses sont déjà présentes, c'est-à-dire que lorsque vous avez cru en Jésus-Christ, vous êtes devenu un enfant de Dieu. Lorsque vous avez cru en Jésus-Christ, vous êtes en lui, il est en vous. Et certaines choses sont à venir, donc des choses sont à manifester, bien sûr. Le fait que vous allez vivre dans le royaume de Dieu, le fait que vous allez régner avec Dieu, le fait que vous allez vivre dans la gloire du Seigneur Jésus-Christ, ça c'est à venir. Et pour conclure, donc une fois sauvés, nous avons l'assurance de vivre éternellement dans le royaume de Dieu. Jean chapitre 11, versets 25 et 26 nous dit « Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, bien qu'il soit mort, cependant il vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. crois-tu cela ? Donc on voit Jésus qui dit que si vous croyez en Jésus-Christ, vous ne mourrez jamais. C'est-à-dire que lorsque vous mourrez physiquement, vous ouvrez les yeux, vous êtes au paradis. Ça parle de, que vous ne mourrez jamais spirituellement. Et donc, vous allez vivre éternellement. Donc ça, c'est vraiment très encourageant aussi de se rappeler toujours le fait que nous ne pouvons pas mourir. Notre corps de chair peut mourir, mais notre esprit est vivant pour toujours. Donc, si nous mourons, nous sommes au paradis, dans la gloire pour l'éternité. Donc, vivons nos jours ici, dans la joie, remercions le Seigneur du fait que nous avons cette espérance bénie, qui est une certitude, car la parole l'atteste, que nous allons vivre où il n'y aura plus de soucis, plus d'inquiétude, dans la paix et la joie éternelle. Et Dieu nous encourage à travers ces versets, Dieu nous encourage à combattre le bon combat, justement, parce que ici, ce n'est que temporaire, pour avoir des trésors dans les cieux, pour amener des personnes avec nous au paradis, permettre à des gens d'aller au paradis, et c'est ce que nous devons faire en tant que chrétiens. Si nous aimons les autres, partageons-leur l'évangile afin qu'ils puissent aussi aller dans ce lieu glorieux. Parce que s'ils ne sont pas sauvés, ils vont dans un lieu qui est vraiment à l'inverse du paradis, qui est l'enfer, qui est un lieu terrible. Et pour terminer, je voulais lire Tite chapitre 2, versets 13 et 14, justement un encouragement pour nous en tant que chrétiens. La Bible dit « En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Donc on voit vraiment beaucoup d'informations dans ces versets. Donc nous attendons la bienheureuse espérance, nous attendons le retour du Seigneur Jésus-Christ, qui est notre bienheureuse espérance, qui va être un jour glorieux, un jour merveilleux pour les enfants de Dieu, qui vont se réjouir du fait que le Seigneur revient. Et donc la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, Dieu va se manifester avec gloire, qui s'est donné lui-même pour nous, donc Jésus s'est donné pour nos péchés, c'est grâce à lui que l'on peut être sauvé, et il nous a rachetés de toute iniquité, il nous a purifiés de tout péché le jour de notre salut. Et Dieu a fait cela, donc lorsque nous sommes sauvés, nous devenons une nouvelle créature, et la suite du verset nous dit... Il nous dit, et de se faire un peuple qui lui appartienne, donc Dieu, vous appartenez à Dieu, vous êtes un enfant de Dieu, comme on l'a vu dans le premier point, vous lui appartenez, purifié par lui, et zélé pour les bonnes œuvres. Donc ça, c'est un important à noter. C'est que si vous êtes sauvé, gloire à Dieu, vous êtes certain d'aller au paradis. Maintenant, ce que Dieu vous dit, c'est que vous êtes un peuple particulier. Dieu vous a racheté pour que vous puissiez le servir. Et comme je l'ai déjà mentionné, servir Dieu... Ce n'est pas automatique, parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons la chair et l'esprit. La Bible dit qu'il y a une lutte. Il faut revêtir le nouvel homme, donc cela demande des efforts. Et nous devons marcher par l'esprit pour cela. Et c'est ce que Dieu attend des personnes sauvées. Dieu s'est racheté un peuple particulier, afin que ce peuple puisse le servir et faire des bonnes œuvres. Donc Dieu attend de nous des choses. Et nous devons obéir à Dieu, car si nous ne le faisons pas, Dieu va nous châtier. Et Dieu va nous ramener sur le droit chemin. Et donc, au lieu, justement... d'être châtié par Dieu ou de mener une vie misérable le temps qu'il nous reste ici sur terre, vivons la vie chrétienne et nous aurons des choses merveilleuses qui nous attendent, plus de récompenses si nous avons pour Dieu. Donc on doit toujours garder ça à l'esprit, que Dieu s'est racheté un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres. Et le zèle, c'est vraiment montrer que nous soyons bouillants pour Dieu, que nous soyons zélés, que nous ayons de l'audace. Donc voilà, je voulais terminer avec cela. Et donc, j'espère que ce sermon est un encouragement pour vous. N'oubliez jamais l'héritage des saints dans la lumière, l'héritage qui vous attend, et méditez vraiment ces choses, n'oubliez jamais ça tous les jours, car nous vivons dans un monde obscur, mais nous avons été transférés dans le royaume de Jésus-Christ, et rien ne peut changer cela.